Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et société.
Michel Biron est professeur au département, ou non à rallonge, département des littératures de langue française, de traduction et de création à l'Université McGill. Il est spécialiste de littérature québécoise. Il a coécrit avec Elisabeth Nardou-Lafarge et François Dumont l'histoire de la littérature québécoise, qui est paru en 2007, qui est un ouvrage de référence sur la question. Il est aussi spécialiste du poète Hector de Saint-Denis-Garneau, dont il a publié la biographie chez Boréal en 2015, qui s'est mérité le prix Jean-Étier Blais. Il a également publié les volumineuses correspondances, j'ai vérifié 918 pages, dans la collection Bibliothèque du Nouveau Monde en 2020, et le tout accompagné d'un essai d'analyse que je viens de terminer de lire, La lettre comme fiction de soi de Saint-Denis-Garneau, épistolier, où il défend le fait que les correspondances de Saint-Denis-Garneau sont un quasi-roman. Il est titulaire de la chaire James McGill et directeur de la collection Papier collé chez Boréal. Et son projet de recherche actuel, dont il va nous parler un peu aujourd'hui, s'intitule « La mélancolie dans la littérature québécoise contemporaine ». Et donc, sa conférence s'intitule « Le personnage zéro déchet, titre mystérieux ».
Merci, David. Oui, mais c'est à cause de toi que j'ai ce titre-là, parce que c'était une blague. Je lui ai écrit pour donner un titre de travail, puis il me dit « Ah, c'est bon, ça, personnage zéro déchet ». Et donc, je l'ai gardé parce qu'il avait l'air de trouver ça bon, mais je suis pas sûr du tout de ce titre. C'est un titre de travail très provisoire. Merci de l'invitation. En fait, je travaille, oui, sur la mélancolie. Grosso modo, c'est sur les mutations dans la littérature québécoise contemporaine. Mutation esthétique, j'essaie de comparer ce qui se fait à ce qui se faisait et essayer de voir ce qui est neuf et ce qui continue. Et je m'intéresse plus particulièrement au personnage que j'appelle zéro déchet, on va voir si ça marche, mais c'est dans l'idée d'un personnage non conflictuel ou peu conflictuel, un personnage qui m'intrigue. Et là, j'ai pris zéro déchet en me disant, bon, je vais pouvoir référer à une réalité contemporaine ou à une pratique, une éthique contemporaine en lien avec ce que Pierre Neveu a appelé jadis, il y a quelques années, une écologie du réel, et qu'il a repris récemment dans un essai intitulé « Géographie du pays proche, poète et citoyen dans un Québec pluriel » en 2022. Moi, je surfe sur les textes, c'est-à-dire que j'ai un paquet de références et je n'approfondis rien, donc vous verrez si ça tient ou pas, mais je donne comme ça plusieurs exemples, plusieurs références, je me promène, quoi. Je me suis promené d'ailleurs, c'est la raison du titre, je me suis promené dans la ville. À un moment donné, j'étais allé voir un lancement de poètes. Il y a beaucoup de lancements de poètes, ça lance beaucoup les poètes. Et c'était dans un resto-pub zéro déchet. Et bon, moi qui suis un peu dinosaure, enfin, zéro déchet, je ne voyais pas trop. Et puis là, j'ai appris ce que c'était sur le coup. Et c'est là que l'idée d'un personnage zéro déchet m'est venue, qui n'est vraiment pas une catégorie conceptuelle, mais plus simplement l'expression d'un certain rapport au monde et au monde aujourd'hui, en lien avec cette conscience écologique dont parlait Pierre Neveu. Conscience qui s'est imposée comme un puissant horizon de sens dans la fiction contemporaine en général. Et là, je vais prendre l'exemple que Jean-François m'a laissé, celui de Kevin Lambert, que notre joie demeure, dont le personnage principal, une architecte milliardaire appelée Céline Wachowski, incarne pour moi l'envers du personnage zéro déchet. C'est une vedette internationale qui dépense sans compter et qui entre en contradiction totale avec ce que Pierre Neveu appelle aussi l'éthique de proximité dont fait preuve la littérature. D'où cette descente en enfer à ce personnage qui est une architecte qui devient la cible de la colère des habitants du quartier où la multinationale WeBuy fait construire un immeuble iconique signé par cet architecte vedette. Et il y a une fête organisée chez elle pour son anniversaire et pendant laquelle des vandales s'en prennent à sa maison et couvrent les murs de graffitis, capitalist whore et autres gentillesses en lettres majuscules sur les murs blancs d'un corridor. Et on voit dans cette scène les meubles antiques qui sont renversés, les toiles de grands peintres qui sont lacérées, une sculpture de Giacometti qui est jetée au sol, un salon entier en ruine, la police anti-émeute qui arrive avec ses grosses bottes sales sur le tapis crème, un grand miroir éclaté au sol qui forme, et là, je cite et vous pourrez suivre les citations, une mare de 1000 morceaux qui renvoie les ombres dansantes des corps qui circulent. Et c'est comme si on assistait à la liquéfaction de son monde, qui n'est plus qu'une immense mare. Après le bris de ce miroir, il y a le bris de l'aquarium géant, où vivaient des poissons d'eau salée. Un vrai déluge. De grandes algues molles reposent en tas verdâtres sur le gravier. Le reste de l'eau s'écoule en courte rivière. Une anémone gît échevelée, les tentacules retombés. Il y a des poissons multicolores qui se tordent sur le plancher. Ça brise le cœur de voir ces créatures extraordinaires aux couleurs vives répandues par terre. On voit une raie bizarrement pliée. Un poisson lune gigote dans une plaque. Ça sent mauvais, là aussi. Il y a un pouce d'eau salée dans la chambre à coucher et les amis de Céline accourent avec des bols d'eau dans lesquels ils versent des tonnes de sel pour tenter de sauver les pauvres bêtes. Quelques poissons chanceux se laissent flotter dans de grands saladiers, mais ils n'ont pas l'air en forme, précise le texte. La fête continue, les invités proposent d'aller au deuxième étage, s'ils n'en reviennent pas que des manifestants anticapitalistes fassent preuve d'autant de cruauté animale. On lance l'idée d'un complot, les intrus auraient été engagés au choix par Donald Trump ou par Québec solidaire. Et ça fait rire un peu, ça détend l'atmosphère. Mais Céline, elle, non, elle ne rit pas. Et elle décide de mettre tout le monde à la porte. Et une fois seule, elle promène son regard répété sur les objets, les souvenirs accumulés. Des photos leur envoient à un étrange vide. Je cite, Céline prend la mesure du vide et constate que les sucs fatigués d'elle-même la rejoignent. On ne sait pas trop à quoi ressemblent des sucs fatigués, mais la suite du texte suggère que le personnage de Céline se fissure, se décompose, se liquéfie lui aussi, que des doublures timides surgissent et forment une foule d'étrangères jetées dans la nuit. On dirait la fin du monde et le début d'autre chose. Les invités s'en vont, ils marchent dans la boue, puis arrivent Amelia, Jules et les 13 autres employés de la compagnie Chiffon Bleu, experts en sinistre. Jules s'est habitué à tant de gaspillage. Il dit à ses débuts, avec le chiffon bleu, il trouvait que ça n'avait pas de bon sens de jeter des belles nappes comme ça, de beaux tissus brodés, des centaines d'assiettes de plastique, d'ustensiles presque neufs, de coupes de verre, des quantités inimaginables d'alcool et de nourriture. Puis il en a vu d'autres. Les gens jettent comme ça, ça ne peut pas. Amelia, elle, n'en revient pas de voir tant d'opulence depuis l'étoile d'art abstrait moyen, sur les murs de la cuisine, jusqu'aux 4 voitures de luxe qui dorment dans le garage, là où elle dépose 6 ou 7 sacs de vidange dans une immense benne parfaitement propre et inodore. Le lendemain, la maison redevient propre au grand dam d'un caméraman qui est venu là pour filmer les décombres, le crabuge, le chaos qui repart bredouille. Et Céline se métamorphose vraiment tout à coup en un personnage zéro déchet. Elle soutient le mouvement écologiste et s'engage à militer pour stopper le changement climatique et pour réduire les inégalités sociales. Elle combat désormais pour la dépossession des puissants. Ainsi lavé de ses péchés, ce personnage zéro déchet, que je nomme ici en tout cas, nage dans la mer et retrouve une forme de salubrité qui lui sied bien. Elle se tourne vers l'éthique de la compassion, celle qu'incarne Marie-Claire Blais, citée en exergue du roman et à qui tout le roman renvoie. C'est un hommage à Marie-Claire Blais, comme si le jeune écrivain voulait non pas rompre avec la littérature déjà là, mais l'honorer. Trouver une façon originale d'en recycler divers éléments. Le titre du roman est une allusion non pas à Jean-Sébastien Bach, mais au dernier mot de Soif, qui est paru en 1995, qui est le premier roman d'un cycle très important, que Marie-Claire Blais va poursuivre jusqu'à sa mort. Kevin Lambert emprunte aussi à son modèle la longueur des phrases, un certain lyrisme décomplexé, des tournures interro-négatives, la diversité des personnages, la structure chorale du roman, des scènes de fête. Quelques soifs répétées comme la soif de fumée commune à Renata, personnage au début de Soif, et à Cécile. Quelques objets fétiches comme l'étui d'or de Renata et ça devient un étui d'argent dans le cas de Cécile, etc., etc. Mais plus que tout, c'est le sursaut éthique du personnage face aux injustices sociales et aux espaces habitables. C'est la conscience géographique qui crée une filiation entre les deux univers de Kevin Lambert et de Marie-Claire Blais. Et qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres contemporaines, comme chez Pierre Neveu, dont le recueil « Lignes aériennes » de 2002 tourne autour du scandale de l'aéroport Mirabel. Cet aéroport créé à grands frais, vous le savez, au prix de nombreuses expropriations, avant d'être fermé définitivement, comme la tour du Canada. Et devant le spectacle de ce grand gaspillage, ce grand vide, cet éléphant blanc, le poète ne peut faire autrement que ressentir cette dépossession, comme s'il était occasion de révolte. Lui qui avait longtemps été sans projet, c'est ce qu'on lit dans son recueil. Ce déracinement au nom de la modernité est inadmissible pour celui qui dit avoir peu de racines. Comme chez Kevin Lambert, le scandale est lié au territoire vidé de ses habitants, au conflit entre la froide modernité expansive et la géographie du pays proche dont se réclame Pierre Neveu. J'utilise le mot « conflit » Mais ce qui me frappe, c'est le fait que le personnage, chez Kevin Lambert, chez Pierre Neveu, est loin d'être franchement conflictuel, loin d'être un vrai révolté. Il cherche plutôt à aménager autrement le territoire qu'on ne l'a fait au nom du progrès moderne. Et pour comprendre la nature apparemment contradictoire de ce conflit non conflictuel, je reviens brièvement au restaurant Zéro Déchet que j'ai visité et à ce que ça représente dans le monde d'aujourd'hui, selon ce que j'en comprends. S'afficher zéro déchet, ça se résumerait à peu près trois verbes qui commencent par la lettre R, refuser, recycler et réduire. Refuser un certain libéralisme, fondé sur la loi du marché, la consommation effrénée, le gaspillage, la dépense compulsive, le commerce, la croissance tous azimuts. Bon. Recycler le plus possible, récupérer, autre verbe avec un R, les matériaux, faire du neuf avec du vieux, fabriquer soi-même ce qu'on peut fabriquer au lieu de l'acheter ailleurs. Et enfin, réduire son empreinte, agir donc de façon responsable par rapport aux générations futures, en veillant à ce que ce soit une pratique durable. Le restaurant Zéro Déchet que j'ai visité se trouve sur la Plaza Saint-Hubert. Il a fait l'objet d'un reportage à l'émission L'Épicerie. Je retiens quelque chose que la journaliste dit dans son reportage. Ce qui l'a séduit, surtout ce qu'elle nous dit d'entrée de jeu dans son reportage, c'est le merveilleux vide qui entoure le restaurant Zéro Déchet. Elle s'émerveille du fait qu'en arrière du restaurant, il n'y a pas de poubelle, contrairement au commerce avoisinant, où tout s'encombrait d'immenses bacs. Par définition, ou plutôt par vocation, le resto pub Zéro Déchet ne produit à peu près aucun résidu. Il laisse pas de traces derrière lui, pas d'empreinte visible. La journaliste démontre en une formule toute simple cet exploit environnemental. Elle dit, quand on regarde derrière le commerce Zéro Déchet, il n'y a rien. La question de la qualité de la nourriture est secondaire. À côté de cette prouesse écologique, ce qui compte, ce qui constitue la principale vertu de ce restaurant, sa marque de commerce, sa raison d'être même, tient ce bref diagnostic. Quand on fouille derrière le restaurant, il n'y a rien. Rien comme lorsque le docteur Canivet fouillait le corps du pauvre Charles Bovary pour y trouver la trace de quelques graves maladies expliquant son soudain décès. On se souvient de la formule dévastatrice de Flaubert. Il l'ouvrit, il ne trouva rien. À sa manière, ce pauvre Charles était un personnage zéro déchet avant la lettre. Il l'était d'autant plus si on le compare à la consommatrice compulsive qui était sa femme Emma, l'héroïne du roman. Charles, à côté, n'est qu'un personnage bêtement secondaire, secondaire parce que bête, un personnage sans personnalité, un homme sans qualité remarquable, mais aussi sans grave défaut, un personnage plat, comme sa conversation qui était plate comme un trottoir, plat aussi au sens que donnait à cette expression Liam Forster, en opposant ce type de personnage filiforme au personnage rond, forcément plus riche du point de vue romanesque. Mes étudiants, qui j'ai fait lire récemment le roman de Flaubert, ont pourtant trouvé qu'à côté des Homais et autres Rodolphe, Charles était un personnage au moins intègre, et plutôt touchant de gentillesse. Ils lui ont trouvé une forme d'humanité quasi héroïque, et ont même conclu qu'il s'agit du seul personnage vraiment bon, vraiment altruiste, parmi tous les personnages de Madame Bovary. C'est comme si ce type de personnage vide qui meurt sans laisser la moindre trace avait une résonance particulière à notre époque, loin des figures d'un quichotesque de type Emma Bovary et en marge des figures plus franchement négatives comme celles que décrit Enrique Villamataz en suivant la lignée des Bartleby, ces héros du néant qui ont produit une littérature du refus, du « je préfère ne pas ». C'est vrai que la définition même du zéro déchet implique un refus, je l'ai dit tantôt, mais c'est un refus paradoxalement positif. Un refus vertueux et qui n'a rien d'asocial, au contraire. Au resto pub zéro déchet que j'ai visité, en tout cas, on agit pour le bien de la communauté. Le refus ne se veut ni radical, ni exclusif, c'est un refus réfléchi, partagé, mais c'est un refus quand même ramené à l'échelle de la vie quotidienne, à la vie locale, un engagement modeste et pourtant difficile, exigeant, qui cherche à accorder une certaine sensibilité universelle à la géographie du pays proche dont parle Pierre Neveu, une conscience du vide que semble acquérir Céline Wachowski une fois que sa maison a été entièrement nettoyée, même si on croit plus ou moins à sa métamorphose. Il y a dans le fait de s'afficher zéro déchet un geste politique qui n'a rien de révolutionnaire ni de dogmatique, un geste sans éclat, à la fois non conformiste et légèrement conflictuel, mais en fait aussi peu conflictuel que possible, donc forcément peu romanesque, si l'on accepte l'idée qu'il n'y a pas de personnage romanesque sans conflit, du moins dans la tradition réaliste. Si les hamburgers du resto Zéro Déchet ne sont ni meilleurs ni pires qu'ailleurs, comme j'ai pu le vérifier moi-même, le lieu a tout de même un supplément d'âme qui fait plaisir du fait de sa politique zéro déchet. On dirait qu'il est d'emblée accueillant, on sent l'hospitalité, on est à peu près certain de rencontrer là des êtres sympathiques qui ont à cœur le bien-être urbain, ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. On entre dans un tel lieu avec confiance, un peu comme on entrait naguère dans les romans de Jacques Poulain, sûr d'y rencontrer des personnages aimables, d'une certaine douceur, toujours prêts à partager un chocolat chaud. Ce sont des personnages un peu marginaux, mais pas misérables, un peu révoltés, mais pas trop. Des personnages qui n'aiment pas le progrès moderne et qui s'arrangent pour vivre modestement loin de la foule, sur une île déserte, dans les Grandes Marées, dans un vieux Volkswagen, Volkswagen Blues, dans une vieille maison mal rafistolée, le vieux chagrin, dans un bibliobus, dans la tournée d'automne, qui est la version littéraire du zéro déchet, puisque les livres font partie d'une économie circulaire. Tous pratiquent en tout cas une étrange simplicité volontaire qui les rend à la fois anachroniques et résolument contemporains. Ils ne font presque pas de bruit, ne dérangent personne, et s'ils tournent le dos au tourbillon de la ville, c'est pour aménager un lieu accueillant aux visiteurs éventuels, c'est pour offrir un gîte à l'un ou l'autre exclu de la société, comme une jeune fille vivant dans un refuge pour femmes dans le vieux chagrin. L'image du personnage zéro déchet évoque pour moi une figure relativement effacée du monde, une figure à laquelle il n'arrive presque rien et qui ne cherche pas à jouer les héros, les vedettes, à s'élever au-dessus de la mêlée, à se singulariser outre mesure. Si je reviens au reportage, une dernière fois, un reportage très instructif sur le restaurant zéro déchet qui s'appelle La Cale, je remarque que la journaliste y souligne le travail en groupe et ne parle pas de la renommée d'un chef, comme on le voit ailleurs dans les innombrables émissions, compétitions culinaires qui font partie du paysage médiatique aujourd'hui. Le pub Resto Local repose sur une équipe de 4 corsaires, qui est un peu sportive. Et c'est la journaliste qui utilise le mot corsaire, à cause de La Cale, j'imagine. Et elle insiste sur la cohérence et sur l'unité de ce groupe d'individus, qui partagent les mêmes valeurs dites citoyennes, et qui offrent à leurs clients non seulement de la nourriture, un espace, mais aussi une façon d'être en relation au monde, un véritable environnement, une mini-société égalitaire, inclusive et positive, qui s'accorde avec la vie de chacun. Non pas une utopie, mais un monde de résonance, au sens fort que donne à ce terme le sociologue Hartmut Rosa, disciple lointain de l'école de Francfort, dans un ouvrage intitulé « Résonance, une sociologie de la relation ». On y lit par exemple ceci. Sans doute, rien n'est-il plus éclairant que l'étude de l'alimentation si l'on veut analyser le rapport au monde spécifique à chaque culture et à chaque société. L'idée centrale de l'ouvrage de Rosa, qui s'inspire notamment des travaux de Charles Taylor sur la source du moi, du philosophe allemand Axel Honneth sur la notion de reconnaissance, c'est que dans un monde soumis à la loi de l'accélération, toujours produire davantage, telle est la règle d'or de la modernité, la stabilisation dynamique, comme le dit Rosa, ce ne sont pas seulement les ressources matérielles ou symboliques, l'argent, le pouvoir, qui définissent les formes de vie, qui orientent les actions en fonction d'une vie bonne, ce sont aussi les différents axes de résonance, depuis les expériences élémentaires du corps, respirer, manger, sentir, jusqu'aux langages affectifs et cognitifs les plus élaborés. Je me permets de citer un passage de cet ouvrage récent de Rosa pour situer mon propos. Ce sera ma petite incursion théorique qui vaut ce qu'elle vaut, vous me direz. Les relations résonantes au monde se distinguent des pures interactions causales ou instrumentales en ceci qu'elles ne désignent pas un rapport fixe, déterministe et régi par le principe de causalité locale, mais reposent au contraire sur l'idée d'un contact et d'une correspondance intime, sur la notion de réaction réciproque entendue au sens authentique « réponse ». Or, la pensée naturaliste et rationaliste moderne n'admet pas que de telles résonances puissent exister dans le domaine des processus métaboliques. Plus loin, dans le même ouvrage, le philosophe observe que la science ou la pseudo-science a beaucoup étudié la première partie du processus, soit l'ingestion, ce qu'on mange, ce qu'on boit, et beaucoup moins la seconde partie, le processus de digestion et d'élimination, et que le langage lui-même évite de parler de ce qui reste, de ce que le corps élimine. La modernité porte davantage son attention sur l'incorporation, le contrôle, le traitement du monde que sur le fait de s'ouvrir à lui, de le relâcher, de le restituer. Son rapport au monde ne vise pas des processus d'échange organique, mais la domination et la fermeture. Une telle théorie sociologique n'a rien de littéraire. À première vue, il n'a rien à voir avec le personnage zéro déchet. Mais elle dit quelque chose du rapport entre l'individu et le monde, à l'ère de la modernité tardive. Elle suggère une relation qui n'est plus celle dont parlait par exemple Lukács, qui définissait le roman comme le récit d'un conflit entre l'individu et le monde. L'image du personnage zéro déchet, selon l'hypothèse que je formule ici, suggère un désir de transformer la relation avec le monde en plaçant le personnage par-delà tout conflit direct avec le monde aliénant, celui du travail, de la société de consommation, du gaspillage, du luxe. Double distanciation, donc, ou si l'on veut, double révolte, à la fois refus d'un monde qui ne veut plus rien dire, mais qui ne peut qu'aliéner davantage le sujet moderne, et refus d'entrer en conflit direct avec ce monde, il s'agit plutôt de proposer un mode de vie alternatif. Si l'image du personnage zéro déchet m'est venue, en pensant au roman québécois contemporain, c'est surtout à cause de cette deuxième forme de distanciation, cette non-conflictualité, ou ce peu de conflictualité directe qui caractérise le personnage contemporain, tout particulièrement au Québec. À vrai dire, je vois des exemples de telles figures dans un grand nombre de textes québécois, bien avant l'époque contemporaine, depuis le père Chapdelaine, qui n'a cessé de fuir ses voisins, qui l'haïssaient, pour mouver toujours plus au nord, là où il n'y avait encore personne, jusqu'à la figure d'Alexandre Chenevert de Gabriel Roy, qui va s'isoler au Lac Vert, dans les Laurentides, ou encore jusqu'à Nicolas et André Ferron, les héros de l'hiver de force de Ducharme, qui ont pour grand projet de vie de faire en sorte qu'il n'y ait plus rien, et qui se débarrassent peu à peu de tous leurs biens. Il y a pour moi une certaine continuité entre le personnage zéro déchet d'aujourd'hui et ce personnage non conflictuel d'hier, qui vivait dans une sorte de grand loisir. Une certaine continuité, mais les choses changent, et cette sorte de révolte rentrée ou silencieuse qui caractérise tant de personnages dans le roman québécois, elle s'exprime autrement dans le contexte de la modernité tardive en regard du nouveau texte social qui se met en place sous la forme d'injonctions comme celle du « vivre ensemble » dont parle Pierre Neveu. Là, je vais vous donner quelques exemples. Prenons le personnage de Luc dans le roman « Rouge, mère et fils » 2001 de Suzanne Jacob. Il s'agit du fils dans le titre et qui se prénomme tantôt Luc, Luca, Lukashkaya. Il a 27 ans, il est étudiant à l'UQAM. Il prépare une thèse de traîtrise en anthropologie sur l'idée de normalité. Sa thèse n'avance guère, entre autres parce qu'il passe son temps à jouer au solitaire à l'ordinateur. Et le texte le présente comme l'otage de ce jeu. Il travaille à l'occasion chez Valentine comme plongeur, soi-disant pour enquêter sur la formation des codes en milieu marginalisé. Il est aussi bénévole à l'urgence de Notre-Dame, à l'hôpital, pour les mêmes raisons. Et il lui arrive de quêter dans le métro, toujours sous le prétexte de mener une enquête de terrain. Mais justement, il y a des problèmes avec le terrain, avec le réel, lui répète sa compagne Rose, qui est psychologue, spécialiste du deuil. Elle lui reproche de ne pas être encore un adulte, de flotter dans le monde, comme s'il n'avait aucune consistance, aucun poids, aucune présence. Il est le premier à reconnaître son peu de réalité, comme si son territoire était mal délimité, comme s'il était poreux et ne savait pas qui il était. Son credo n'a rien pour simplifier les choses. « Je crois que je suis dans un univers en expansion. » Il répète cette phrase. Certains jours, il lui arrive d'avoir la sensation que les murs, le plancher, le plafond de son bureau s'étaient donné rendez-vous en un point central de la pièce où il allait être broyé. Pour se sortir de ses occasionnelles crises de panique, il s'entraîne, par exemple en allant dans une grande surface pour y acheter toutes sortes de biens, plus ou moins essentiels, en se disant qu'ainsi il deviendrait un peu plus réel, un peu plus consensuel, un peu plus interactif, un peu plus contemporain. Le résultat est moyen. En sortant de ses visites initiatiques, il ne savait plus sur quelle planète il habitait. Il était chaque fois au comble du dépaysement. Luc développe alors une autre technique, celle du zapping. Dès qu'une discussion tourne mal, dès qu'il est question par exemple du rapport difficile qu'il entretient avec sa mère, Luc se dissocie de lui-même grâce à la toute-puissance du zapping et il s'imagine quelque part, n'importe où, dans le monde, courant dans une ville, n'importe quelle ville, fuyant son propre corps, cognant partout, mais ne rencontrant que du vide. Cogner sur ses pas qui filaient devant lui, cogner sur les voitures, les vitrines, les bandes fontaines, les panneaux, encore, et cogner les boîtes à lettres et les cabines téléphoniques, arracher les affiches des gourous, des puces, les photos des chats perdus. Tant mieux si quelqu'un appelle la police. La police pourra peut-être arrêter ses pas déments. Il se le disait, mais en réalité, il ne cognait sur rien. Simplement, il cognait en lui pendant que la terre rouge basculait dans la bouche d'un enfant des favelas. Voilà Hochelaga, projeté dans quelques bidonvilles brésiliens, les deux territoires étant affectés du même coefficient d'irréalité, comme si la famille, la langue, la ville ou la nation n'étaient plus que des entités virtuelles, aussi dématérialisées et absurdes que le jeu du solitaire, auquel Luc est condamné, du moins jusqu'à ce qu'un improbable trickster le délivre de son éternel zapping. Un peu comme le fera Kevin Lambert à la fin de « Que notre joie demeure », le personnage subit une soudaine métamorphose au terme d'une scène ésotérique au cours de laquelle Luc et sa mère se retrouvent en pleine nature, au milieu d'un rituel de purification et de réparation animé par le Trickster, qui sert de médiateur entre les origines autochtones de la mère, d'où la couleur rouge, qui sert de titre au roman, et qui revient tout au long de ce roman, et le fils, qui peut dès lors cesser de cogner dans le vide, de faire le mort, et commencer à éprouver enfin le sentiment d'appartenir à une communauté. Cette fin réparatrice, ce happy ending, très théâtral, m'a toujours laissé songeur. Et je retiens surtout de ce roman la légèreté troublante du personnage de Luc, et en même temps l'immense souffrance qui va avec cette légèreté, avec ce désir de rester à la surface des choses, avec la complicité d'un monde qui le laisse faire, même quand il se met à quêter à la sortie de funérailles. Toute l'œuvre de Suzanne Jacob montre et dénonce la passivité du monde, ce qu'elle appelait dans son roman le plus connu, l'obéissance, qui raconte comment une enfant a pu obéir à sa mère jusqu'à se noyer. Je prends un autre exemple, tiré de l'œuvre de Nicolas Dickner, qui fait une place très généreuse à l'univers des déchets. Les personnages de Dickner sont fascinés par les déchets, comme on le voit dès son premier roman, Nikolsky, 2005, où l'on voit que Joyce, une pirate informatique, fouille dans les déportoirs urbains à la recherche d'appareils électroniques frappés d'obsolescence, mais qu'elle parvient à récupérer. Un autre personnage, Noah, suit un cours d'anthropologie donné par un spécialiste de l'archéologie des déchets, parce qu'un ami lui avait dit que c'était le cours qu'il fallait suivre s'il ne restait qu'un seul cours à suivre avant la fin du monde. Noah note le premier principe du cours, tout est déchet. S'il est un champ lexical qui définit le roman Nikolsky, devenu rapidement un best-seller à l'échelle du Québec, c'est bien celui des vidanges et des débris en tout genre, qui sont les traces les plus sûres de ce qu'est vraiment une communauté. Les déchets dévoilent ce que tout le reste tente de cacher. Nous ne sommes pas encore entrés dans l'ère du zéro déchet, mais le narrateur nous y invite en prenant la mesure de ce que la société consumériste recrache. Ainsi, le roman s'ouvre alors que le jeune narrateur vide le bungalow de sa mère qui vient de mourir et dont la vie tient en 30 sacs de 60 litres chacun. 1800 litres d'ultraplastique, 30 ans de vie. Je n'ai conservé que le strict minimum, quelques boîtes de souvenirs, des meubles, mes effets personnels. Zéro émotion, le narrateur est un cérébral, pas un poète. Il observe, il calcule, il n'oublie jamais qu'il lui faut raconter une bonne histoire et donc que les déchets doivent avoir une fonction narrative et intertextuelle. On n'invente rien, tout se recycle. La phrase d'ouverture du roman, « Mon nom n'a pas d'importance » est un emprunt à peine déguisé à Moby Dick. Et tout fait signe dans ce roman drôle et codé, drôle parce que codé, qui est comme un composite de thèmes contemporains, villes, migrants, nouvelles technologies, voisinant avec des vieilleries, dont fait partie la littérature, emblématisée par une librairie d'occasion, forcément, où travaille le narrateur et où se retrouve un livre lui-même composite, plusieurs fois recyclé, un livre sans visage et à trois têtes, puisqu'il a perdu sa couverture originale et se compose de fragments appartenant à trois livres différents. Nikolsky, vous le savez si vous l'avez lu, est une collection de choses hétéroclites, de curiosités postmodernes, beaucoup d'objets inutiles qui deviennent les emblèmes d'un monde surchargé où rien d'original n'existe, où tout est indéfiniment recyclable, même les histoires les plus éculées, où le meilleur moyen de survivre et de passer inaperçu, de devenir un être zéro déchet, invisible et sans odeur. Voici par exemple le poisson préféré de Joyce, la plie. Ce pleuronectidé, peu glorieux, ni redoutable ni athlétique, maîtrise le mimétisme au plus haut degré. Sa silhouette aplatie et une complexe pigmentation de l'épiderme lui permettent de se confondre totalement avec le fond marin. Immobile, elle disparaît. En mouvement, elle ressemble à un simple nuage de sable poussé par le courant. Par analogie, on comprend bien sûr que Joyce reconnaît parfaitement dans cet art du camouflage, comme lorsqu'elle s'habille tout en noir pour ne pas être vue la nuit, en train de fouiller les conteneurs remplis de débris d'ordinateur. C'est cet art de se fondre dans le décor qui importe ici bien plus que l'action elle-même. Le roman invente un univers à la fois baroque et familier, où les correspondances entre la réalité quotidienne et la métaphysique du déchet semblent se multiplier à l'infini. Nikolsky jette sur le monde du début des années 2000 un regard à la fois désespéré et cabotin. Il n'y a ici ni révolte, ni bon sentiment, mais une manière désinvolte d'habiter un monde où même les compas semblent avoir perdu le nord. Dickner reprend cette obsession du déchet dans son troisième roman, 6 degrés de liberté, paru en 2015, qui raconte comment on peut arriver à vivre dans un conteneur auto-nettoyant. Un couple composé d'Eric, un jeune hacker millionnaire agoraphobe qui vit chez sa mère à Copenhague, et de Lisa, une jeune femme experte en travaux manuels, vont imaginer une manière astucieuse de se faire oublier, mettant en pratique le principe de l'oubliabilité, en effaçant toute trace matérielle ou immatérielle de leur existence. Au début, 6 degrés de liberté ressemble à Nikolski. Lisa, âgée de 15 ans, s'occupe de vider le grenier d'une maison en ruine que son père veut rénover, comme le narrateur de Nikolski vidait la maison de sa mère. Le romancier revient sur sa manie des déchets, dont il tire un nouveau principe. Les déchets ont toujours été un important marqueur de classe sociale, explique le narrateur de 6 degrés de liberté, qui suggère à Mark Zuckerberg d'inciter les amis de Facebook à publier le contenu de leurs poubelles plutôt que leurs goûts musicaux ou alimentaires. Car les poubelles ne mentent pas. Elles dévoilent ce que l'on est plus sûrement que ne le fait ce que l'on exhibe. Le roman n'est plus un miroir que l'on promène le long du chemin, comme au temps de Stendhal, mais un conteneur que l'on promène le long des ruelles pleines de poubelles. Il y a toujours moyen d'imaginer des vies en observant ce que les gens mettent au rebut. C'est ce que fait par exemple Jay, une autre pirate informatique après Joyce, qui travaille désormais pour la GRC, mais continue d'aimer les rebelles comme Lisa et Eric. Pendant que Jay surveille les données des cartes de crédit sur son ordinateur, elle tâche d'imaginer derrière la froide façade de ces chiffres les destins qui se font et se défont, la vie qui avance comme une coulée visqueuse de skis de fond, de scooters, de trios souflaki, de fichiers MP3, de romans de gare, de vibrateurs, d'essence ordinaire, de pneus d'hiver, de massages californiens et de clous à toiture, d'armoires IKEA, de bretzels au chocolat aromatisé à la menthe, de nettoyeurs à vitres et de sacs à ordures. Les personnages collectionnent les données, les listes, les signes pour le simple plaisir de la chose. On ne les voit presque jamais aux prises avec la réalité, la maladie, le corps, les souffrances de la vie réelle ne les empêchent jamais de s'adonner à leur sport favori, l'observation ironique. La société existe, mais très peu pour eux. Les relations existent, mais de préférence à distance. Eric et Lisa sont l'un pour l'autre comme un frère et une sœur, un duo aussi exclusif et platonique que des personnages de Ducharme. Ils sont dans leur monde zéro déchet, mais aussi zéro action, zéro conflit. Ce sont des obsessionnels pour qui la libido siendi prend toute la place. Il n'y a pas l'ombre d'une scène à caractère sexuel dans tout le roman, et c'est comme si la question du désir n'avait guère d'importance pour ces personnages sans attache forte, sans ambition précise, mais qui ne sont pas des loseux pour autant. Dès qu'ils s'y mettent, ils réussissent l'impossible, comme de construire un conteneur maison qui va permettre à Lisa de faire le tour du monde en catimini, mais sans rien voir du monde, sans le moindre contact direct avec l'extérieur. Lisa, Eric ou Jay habitent un univers artificiel à la fois miniature et infini. Ils s'inventent un monde à leur image, ce sont des champions du « do-it-yourself », comme s'ils ne dépendaient jamais de personne. Du passé, ils prennent ce qui leur convient, oublient ce qui les dérange. 6 degrés de liberté est ainsi une fable sur la mémoire, sur l'identité. Elle s'exprime à travers les manies des personnages secondaires, comme la mère de Lisa qui lutte contre sa dépression en visitant de façon compulsive le magasin IKEA, ou encore son père qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Dans un monde soumis au présentisme, l'oubli est la condition même de l'existence et donne lieu à un néologisme quand Lisa et son ami Eric choisissent de donner à leur conteneur clandestin un code obéissant à la règle suave de l'oubliabilité. Ce sera PZIU. 1270027, qui leur semble raisonnablement oubliable et tout de même assez esthétique. L'identité chez Nicolas Dickner tend vers l'oubliabilité. On veut repousser les limites de l'expérience humaine, mais incognito. Se faire oublier, passer inaperçu, changer de lieu, renoncer à son identité, tout ce que font les personnages de Dickner tourne autour de ce même motif de l'oubliabilité. Il y a là une sorte de métaphore qui s'applique à la vie qu'il mène. Jay a d'abord été reconnu coupable de vol d'identité avant de signer son entente secrète avec la GRC, qui l'oblige à changer de nom et à rompre avec son passé. Elle a consenti à son effacement de la surface de la planète parce qu'elle n'avait guère le choix, mais aussi parce qu'elle n'avait pas grand-chose à perdre. Ce personnage, comme les autres, existe en s'effaçant. L'individu veut sa liberté, mais pour cela, il doit s'évaporer, abolir les frontières entre le matériel et l'immatériel, circuler dans le monde des données et des métadonnées. D'où l'idée incongrue, mais très suggestive et paradoxalement inoubliable, du conteneur qui mêle la lourdeur du matériau à l'évanescence d'un être devenu un simple code administratif balloté au gré des crues géantes du monde entier. Le conteneur est-il un lieu? Non, pas vraiment. Mais il ne s'agit pas non plus d'une banale boîte, ni d'un véhicule, ni de l'équivalent transcontinental d'un ascenseur. Il est à la fois objet et infrastructure, acier gaufré et base de données. Il relève de la culture et du cadre légal. Voilà des siècles que des êtres humains sont familiers avec la géographie, avec des concepts tels que la route, le territoire, la frontière, mais le conteneur échappe à la géographie. Il opère en périphérie de la conscience collective. Tichner oublie toutefois que ce fantasme d'une géographie sans frontières, tout à l'opposé de la géographie du pays proche de Pierre Neveu, est on ne peut plus courant dans l'imaginaire contemporain, et que même si son joujou de conteneur indétectable a peu à voir avec la réalité de la mondialisation et des flux migratoires actuels, ces personnages qui rêvent de se faire oublier, de vivre en marge du monde, ne sont pas si rares, en particulier au Québec. Le personnage « zéro déchet », comme je l'appelle, est un personnage parfaitement oubliable. D'ailleurs, je suis frappé par le fait que si peu de personnages contemporains demeurent mémorables dans le roman contemporain, mais en particulier au Québec. Le personnage n'entre dans la mémoire que s'il laisse des traces, que s'il traîne avec lui des déchets, que s'il est lui-même une sorte de déchet d'histoire, comme les figures inoubliables de Beckett. Ni Luc, ni le narrateur de Nikolski, ni Lise, la squatteuse d'un conteneur nomade, ne marquent la mémoire. Ce sont des symptômes d'un monde tout en surface, qui flottent au-dessus du temps et qui sont ainsi paradoxalement parfaitement contemporains les uns des autres. Si l'on sourit souvent en lisant les romans de Tichner, parenthèse, qui avoue récemment à son éditeur Antoine Tanguay qu'il voulait cesser d'écrire des romans jeunesse, parce qu'il va réussir. Je ne compte plus les personnages dans la littérature québécoise pour qui ce vide ou cette oubliabilité n'a rien d'un jeu. Une bonne amie de Nicolas Tichner, Dominique Fortier, a développé une relation presque intime avec la poète américaine Emily Dickinson, qui est à sa manière un autre personnage zéro déchet. Je note au passage à quel point cette figure de la poète recluse d'Amherst résonne fortement dans la littérature québécoise, de Marie-Claire Blais à Pierre Neveu, en passant par Michel Garneau, Carole Massé, Jacques Brault, Robert Molençon et d'autres. Dans le dernier roman de Régent Duchamp, Gros mots, 99, Johnny demande à Julien « Allô, are you nobody too? » Il n'est pas nécessaire d'avoir lu Emily Dickinson pour comprendre la question. Et je ne peux m'empêcher de voir un lien entre cette figure du nobody et le personnage zéro déchet que j'essaie de décrire. Pour Dominique Fortier, Emily Dickinson n'est ni mystique ni asociale. Elle n'est pas si recluse que ça. L'effacement ou le vide, ce que j'appelle la tentation du zéro déchet, devient chez elle facteur d'intensification de la vie et la retraite hors du monde, une main tendue vers d'autres nobody. Ici, la solitude tient de la révolte silencieuse et elle n'est qu'apparente. En réalité, soutient Dominique Fortier, la poète vit au cœur des choses, au plus profond d'elle-même. Pourquoi y voir un mystère? Qu'y a-t-il d'étrange pour une poète à vouloir se retirer parmi les mots et les roses? En vérité, écrit Dominique Fortier, cela ne me semble pas si difficile à concevoir. À la rigueur, on a plutôt du mal à comprendre pourquoi plus d'écrivains ne font pas la même chose. Elle le répétera plus loin, on devrait s'étonner qu'il ne soit pas plus nombreux les écrivains qui s'enferment tranquilles chez eux pour écrire. À l'ère d'Instagram, l'invisibilité volontaire est devenue suspecte. L'écrivain est constamment sommé de paraître sur la scène du monde. La maison du possible qu'Emily Dickinson choisit d'habiter, et qui est la maison de son enfance, contient tout ce qu'elle désire. C'est une vie parfaite, parfaitement close, enclose en elle-même, ronde et pleine comme un œuf. Elle ne veut rien d'autre. Elle regarde par la fenêtre, respire les parfums des fleurs de pommier ou l'odeur du pain en train de cuire. Et à chaque année, elle enlève au lieu d'ajouter, réinvente l'art de soustraire et marche en équilibre sur le néant. Une pomme dans la main, un pied dans la tombe. Autre personnage zéro déchet, dont je ne parlerai pas beaucoup, mais je signale le dernier roman de Louis Hamelin sur Henry David Thoreau, Un lac le matin. Et on ne peut pas imaginer un personnage plus zéro déchet que Henry David Thoreau avec sa cabane construite de ses propres mains à Walden Pond. Donc une cabane, tout ce qu'il y a de plus zéro déchet, une sorte de manifeste écologique avant la lettre. À la différence des villes de papier d'Emily Dickinson, la cabane de Thoreau attire cependant beaucoup de monde. Et Louis Hamelin tient à faire de son personnage un être profondément social, drôle, accueillant, comme dans le pub, café, la cale. Il multiplie les dialogues avec Emerson et d'autres figures historiques, dont un chasseur canadien-français qui devient l'ami de Thoreau. Vivre à l'écart du monde, c'est pour le personnage zéro déchet une façon d'éprouver son lien avec le pays proche, avec la nature nord-américaine. Et le roman de Louis Hamelin multiplie les descriptions d'espèces végétales ou les différentes sortes d'oiseaux qu'on peut observer en Nouvelle-Angleterre. Et comme chez Dominique Fortier, on y passe sans arrêt du personnage historique, Thoreau ou Dickinson, à un « je » qui se met en scène dans la maison ou les chalets qu'il a habité. Le personnage contemporain ne se sent nullement dépaysé dans ce 19e siècle, au contraire. Il y est chez lui, et Dominique Fortier dira dans « Les ombres blanches », qui est la suite des villes de papier. « Longtemps, j'ai regretté de ne pas avoir vécu au 19e siècle qui me semblait le théâtre d'une existence dépourvue des mille et une obligations superflues encombrant nos vies modernes surexcitées. » Le personnage zéro déchet se reconnaît à ce refus de nos vies modernes surexcitées. Il vit juste à côté. Comme le dit Patrick Nicole, charmant exemple, dans son plus récent roman intitulé « J'étais juste à côté » 2022, qui met en scène un professeur de littérature vieillissant. À côté de qui? À côté de quoi? À côté des autres, à côté de la vie, à côté de lui-même, à côté de son propre personnage. Les chapitres alternent entre des récits en apparence autobiographiques écrits au jeu et les personnages de Pierre, alter ego du jeu. Lors d'un souper chez sa collègue Mélanie, Pierre observe la table. Une mouche se pose sur l'agneau, un moustique sur la bouteille de vin. La conversation, on ne peut plus banale, se fait sans lui. On arrive au fromage, tout lui semble irréel. Comme pour Luc, le héros de Rouge Mère et Fils de Suzanne Jacob. Quelqu'un parle du temps qu'il fait ou qu'il fera. Ses paroles ne suffisent pas à tirer Pierre vers son corps, ses amis, son amour. La tarte sera servie sans lui, elle se sert toute seule. Il ne revient à la réalité que lorsque Julie lui tend la main sous la table. Julie, c'est sa conjointe. Ailleurs, lors d'un concert, même sentiment d'absence, de tristesse ontologique, que Pierre partage avec Julie, du début à la fin du spectacle, mais surtout à la sortie. C'est une chose qu'ils font bien ensemble, quitter une salle de concert. Ils ne disent rien, complices dans leur silence, dans leur douce tristesse. J'étais juste à côté, se lit aussi comme un aveu d'impuissance face à la tragédie du monde, face à la tragédie d'Amir en particulier, un chargé de cours qui est ballotté d'université en université et qui, de guerre lasse, décide d'en finir. « Je suis tanné de me trimballer », confie-t-il à la femme de Pierre au téléphone, une semaine avant de se pendre. « J'étais juste à côté d'Amir », se dit le narrateur, « et je n'ai rien pu faire pour le sauver. Son histoire se perd parmi les autres vies effleurées. Les signes se refusent à moi, ils gisent ou se dressent illisibles. Le jour où cet ami Amir est mort, les Canadiens affrontaient l'avalanche du Colorado au centre Vidéotron à Québec, avec Patrick Roy derrière le banc, vêtu du chandail des Nordiques. Une tempête gigantesque frappait l'est du continent. Le narrateur annule son cours et reste chez lui, même si le cégep a décidé de maintenir ses activités. Il passe l'après-midi à dormir. Ça m'arrive souvent, le détachement, la séparation. Pendant que Julie s'attarde à l'université, lui regarde le match de hockey. Il note les détails futiles, les coups de poing de Patrick Roy sur le logo de Subway sur la paroi derrière le banc de l'Avalanche. Il n'y a aucun rapport entre la mort d'Amir et le match de hockey, mais cela arrive en même temps. Dans la même ville, tout le roman de Patrick Nicole est construit autour de ces superpositions entre le drame intime et le spectacle social, évoqués tous deux avec la même distance mélancolique, avec la même colère rentrée. Cette petite hargne que je traîne avec moi est une manière de ne pas fermer les yeux, de rester attentif aux signes extérieurs et d'habiter malgré tout le pays proche dont parle Pierre Neveu. Mais pour conclure, la solution la plus originale au problème, parce que pour moi c'est un sort de problème du personnage zéro déchet, le problème, c'est que c'est un personnage peu romanesque. Donc, la solution la plus originale, je la trouve chez Marie-Claire Blais, dans son immense cycle « Soif » dont j'ai parlé au début, et qu'elle poursuivait encore quelques jours avant de mourir en novembre 2021. Ce qui devait être une trilogie est devenu une fresque gigantesque de 10 volumes, plus 2 continuations, une sorte de longue phrase qui s'étire sur plus de 3000 pages, presque sans interruption, comme vous le savez peut-être. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de paragraphe, et les points sont vraiment rarissimes. Au total, on compte à peu près 250 personnages principaux, comme on le lit dans l'index qui se trouve dans le 10e volume, Une réunion près de la mer. Donc tous ces personnages ont en commun d'être à peine développés. Ce sont des silhouettes, le plus souvent identifiées par un prénom, et reconnaissables à quelques traits de caractère à peine esquissés. On trouve parmi eux une quinzaine d'animaux, surtout des chiens et des oiseaux, qui font donc partie de cette vaste communauté des vivants. Soif est à notre monde contemporain hyper connecté, ce qu'une saison de la vie d'Emmanuel était au Québec des années 60. La comparaison des deux romans montre bien ce qu'il advient du personnage d'une époque à l'autre. Une saison est construite autour des figures inoubliables, il me semble, de grand-mère Antoinette et de Jean Lemaigre, sans parler de la sœur Héloïse qui passe du couvent au bordel. Dans Soif, les personnages forment une arborescence. Ils n'existent qu'en relation les uns avec les autres et ne sont jamais développés. Même si leur âge évolue au fil du cycle, ils ne se transforment jamais et on ne nous raconte jamais non plus leur histoire. Seul importe le mouvement global des consciences de ces dizaines de personnages qui semblent participer à un seul et même cœur. Cette image-là revient tout le temps dans le roman Le cœur, ou l'arche, ou la fresque. Le défi de Marie-Claire Blais dans ce roman gigantesque, qui est l'un des projets les plus ambitieux que je connaisse dans la littérature contemporaine au Québec ou ailleurs, c'est que ça tienne, c'est que ces personnages zéro déchet existent et individuellement et collectivement. Soif n'est pas seulement un roman choral, comme on le dit de beaucoup de fictions contemporaines, dont le roman de Kevin Lambert, car il n'y a pas la moindre intrigue digne de ce nom dans Soif. Rien que des tableaux, pour reprendre le mot de tantôt, où l'on voit des personnages s'interroger sans cesse, leur voix se mêlant à celle des autres. « Nous n'étions jamais une seule personne », se dit l'un de ces personnages, un écrivain prénommé Daniel, auteur d'un livre interminable comme Soif, et qui se souvient d'un grand-oncle Samuel fusillé en Pologne par les nazis, qui songe aussi à son fils Samuel, lui répétant cette phrase « Nous n'étions jamais une seule personne », citée dans un roman dont le titre « Le jeune homme sans avenir » est en soi tout un programme ou tout un non-programme. Plus loin, le même Daniel qui vient de passer 7 heures dans le hall d'un aéroport en attendant que son avion soit autorisé à décoller, est à l'écran de son ordinateur et regarde à la fois cet écran et les fenêtres de l'aérogare. Et que voyait Daniel à l'écran de son ordinateur, lit-on, et au-delà de la baie vitrée, du calme apparent, du ciel et des eaux, la jonction de milliers d'écrans où se jouaient toutes les scènes du monde, des fenêtres de l'aérogare, ne voyait-il pas tout ce qu'il ne pouvait plus se cacher à lui-même, que l'avenir appartenait à des jeunes gens sans avenir? La question reste en suspens, comme tout ce que disent et font les personnages de Soif. Il n'y a jamais de réponse, ni même d'argumentation, ni d'action suivie, seulement des questions et des questions face à un même abîme qui mêle la réalité physique et la réalité virtuelle, puisque les deux font partie de l'immense cœur de la destruction. Le personnage zéro déchet devant le calme apparent du ciel et des eaux ne se raconte pas d'histoire et ne cherche plus à lutter directement contre le monde, mais ne baisse pas non plus les bras. Il ressent profondément les misères lointaines et proches de ce monde si évanescent, se sachant, comme on le lit au tout début du même volume, rivé à peu de pesanteur. C'est la dernière citation. Ce serait donc toujours ainsi, l'émergence de ces sons, ces images, quand, pensait Daniel, tout spectacle de la douleur vous pénètre, fut-elle celle que subissait un moineau, un poussin appelant sa mère quand le balayait la poussière des rues, tout enfant, si petit soit-il de cet univers souvent en détresse, réclamait le cœur aussitôt perforé de Daniel. Son regard haletant, cette patience bien qu'inutile, laquelle semblait sans limite, de voir et de souffrir par l'autre, même l'infiniment petit dans sa lutte, ainsi dans cet aéroport dont on venait d'annoncer la fermeture, les vols sans départ ni arrivée, on ne savait encore pour combien de temps, mais Daniel n'avait-il pas l'habitude qu'il en fût ainsi? C'était un homme de son temps, pensait-il, rivé à peu de pesanteur, bien que tout lui parût souvent si lourd. Voilà, en résumé, le profil du personnage zéro déchet, rivé à son écran, rivé à peu de pesanteur, mais portant sur ses épaules le poids du monde.